Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation. Épisode 4, le déni des victimes face à leur propre extermination. Dans le dernier épisode, j'ai voulu montrer que l'histoire faisait partie du roman national. Les dernières recherches vont vers l'idée que le régime de Vichy n'était pas un régime, mais une dictature. Les archives montrent que, en réalité, Pétain et tout son gouvernement ont pris le pouvoir à Bordeaux en 1940 et ont imposé, en réalité, une dictature avec des lois raciales anti-juives qui ont effectivement été demandées par les nazis, mais qui sont allées beaucoup plus loin que ce qui était demandé. En effet, la dictature de Vichy était extrêmement antisémite et a cherché consciemment à éliminer les juifs qui étaient sur les territoires français. D'abord, les étrangers, puisque c'était aussi lié au racisme envers les étrangers, et ensuite poussé par les nazis à éliminer les juifs français. Il semble aussi de plus en plus évident, d'après les archives, que la dictature de Vichy était au courant de ce que devenaient les gens qui étaient déportés, qu'elles étaient purement et simplement éliminés et qu'il ne s'agissait pas du tout de camp de travail. En lisant des extraits de l'ouvrage dirigé par Laurent Joly, j'ai voulu montrer les nouveautés de la recherche. Par ailleurs, toujours dans le troisième épisode, j'ai fini par lire un assez long extrait de l'ouvrage intitulé « Le déni » d'Hélène Perland. J'ai oublié de préciser une chose peut-être importante, c'est qu'il s'agit d'un ouvrage qui porte sur l'affaire Bétaram et qui réfléchit au déni, à la question du déni, puisque c'en est le titre principal, et qu'Hélène Perland, il y a d'ailleurs un chapitre là-dessus, est la fille de François Bayrou. J'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant de mettre en parallèle les dernières découvertes en histoire et la réflexion qui porte particulièrement autour de la psychanalyse d'Hélène Perland autour du déni, puisqu'elle s'attarde très longuement et de manière, on peut dire, peut-être curieuse, puisqu'il s'agit de parler de l'affaire Bétaram, elle s'attarde sur tout un chapitre sur la famille. Ça, c'est pas curieux qu'elle s'attarde sur la famille, mais elle s'attarde aussi sur le moment de la dictature de Vichy. Pour faire remarquer la différence entre les valeurs morales affichées, le travail, la famille, la patrie, la préservation en apparence des enfants et par ailleurs l'extermination de familles. Je voudrais relire un passage où il est question justement des personnes qui dirigent Vichy. Il est pourtant assez extraordinaire ce moment de la famille, instrument du déni. Il faut imaginer que ceux qui le mettent en place sont sans exception des individus pour qui ces valeurs n'ont aucune signification personnelle. Ils ont tous des vies privées qui vont à l'encontre de cette morale, à commencer par le maréchal Gatteux, que sa femme est obligée de suivre partout pour l'empêcher de lutiner tout ce qui passe. Mais cela n'a aucune importance. Les gardiens du déni, on l'a compris, sont toujours des gens dont la vie personnelle est contraire à ce que la famille a le droit d'acter. On n'entretient pas la boîte vide si on n'est pas profondément verrouillé par le déni. Ils gardent la porte et veillent à ce que la réalité n'entre pas, à commencer par la réalité de leur propre vie privée et celle de leur action politique réelle. Plus loin, elle ajoute, les gardiens du déni, quand la famille est élevée en programme national, permettent l'atrocité et la déréalisent en même temps. Au début de son essai, elle s'interroge sur ceux qui ne l'ont pas vu, alors qu'ils l'ont vu, donc sur l'aveuglement. On parle souvent de ceux qui étaient là et qui n'ont rien fait. C'est une formule biaisée. La vérité, c'est que ce qu'on a en travers de la gorge, c'est la façon dont ils ont vu sans voir. Et nous avons tous tissé, à nos traumas, le souvenir précis du moment où l'expression « œil de statue » s'est imposée comme une formule littérale et non comme une image. Ce je ne sais quoi que regarde Vénus avec ses yeux de marbre. Il me renvoie à une panique obscure. Car le déni, quand on l'a rencontré, ramène à la détresse de se retrouver sans l'appui du regard d'autrui, qui se dérobe à ce qu'on est en train de vivre. D'autres sont là, autour de nous, qui assistent à quelque chose qui ne peut pas avoir de réalité sans eux. La phrase assassine vient de tomber, comme une anomalie jetée là pour vous atteindre au plus ras de ce que vous êtes, sortie de nulle part, n'allant nulle part, gratuite et publique, doublement anormale. Le geste déplacé s'est déroulé au milieu d'une assistance nombreuse, une fête de famille, une sortie de groupe, ou devant les gens que vous aimez, qui sont censés vous aimer aussi, enfin vous le croyez. Et là, rien, un coup de Jarnac. C'est l'incrédulité qui s'étend, se redouble, se retourne contre elle-même, à se pincer de savoir si on est vraiment en train de subir ce qu'on vient de subir, à se cogner contre l'angoisse de savoir ce qu'on prend, à attendre la détonation qui ne vient pas. Les yeux vers lesquels on se tourne pour prendre acte de ce qui s'est produit, on ne se souviendra presque que d'eux. Des yeux qui refusent de vous renvoyer quoi que ce soit, butés dans une fiction de normalité, passif. L'œil de statue est d'abord celui qui vous refuse le point d'appui sans lequel on ne peut pas faire une réalité de ce qu'on vit. Un non-événement non advenu. Et c'est paradoxalement ce refus qui fera trace, même dans les cas les plus extrêmes. Pas les attaques, pas les coups, pas les atteintes à l'intégrité, la violence, la haine, la rivalité, les humiliations. On sait au fond que ça existe. Et même si là, non, d'où ça sort, de celui-là, non, on ne s'y attendait pas. Et cette rencontre avec ce qui nous vise, ça, non, on en a encore le souffle arrêté. Mais ce refus, c'est autre chose. Ma mémoire traumatique à moi, elle s'est fixée là. Mon angoisse, c'était les autres autour de moi. On me détruit sous leurs yeux et ils ne bougent pas. Je suis là, par terre, rouée de coups, au bout de ma vie, et personne ne me fait le moindre signe. Enfin, elle essaye de comprendre l'origine de la violence. Elle dit que pour qu'il y ait ensuite des violences dans l'intimité, dans ce qu'elle appelle le réduit du viol, il faut qu'il y ait une scène de violence publique, justement, sans réaction d'autrui. Cette scène de violence, dans le lieu unificateur à plan unique que j'ai décrit précédemment, happe tous les regards en même temps. Elle est faite pour cela. Il faut que tous les spectateurs y soient absorbés également, qu'ils ne puissent pas échanger avec un point de vue différencié. De fait, il y a chez tous les témoins l'étrange impression d'avoir manqué quelque chose. La scène apparaît coupée de son commencement. La rafle subite dans la rue, le passage à tabac d'un homme sur un trottoir, les violences en milieu scolaire donnent l'illusion à ceux qui sont présents d'être pris dans le développement d'une action plus longue à laquelle ils n'auraient pas assisté. Il n'est pas possible que la victime n'ait rien fait, il doit y avoir une explication. Quelque chose manque. La béance dans la représentation se projette sur les visages et les regards. Ses yeux vides, cette impossibilité d'attester que quelque chose a été vu, faute de pouvoir décoder ce qu'on voit, c'est ce qui vouera aussi la victime au mutisme. J'en arrive donc au déni des victimes, face à leur propre extermination. Il y a deux sortes de déni dans cette extermination que j'ai pu repérer à travers mes lectures et je ne vais pas tout vous lire. Vous pourrez retrouver tout ce déni dans tous les témoignages et dans tous les romans. Le premier déni, c'est celui qui permet d'être arrêté. Je vais vous lire un extrait de mon récit « Il ne faudra plus raconter des histoires », le livre de Jean, 1942-1945, « Un enfant dans les camps ». Dans la première partie de mon récit, je m'intéresse à des personnes qui ont été spoliées à la flèche. C'était la famille Lévy. Il y a des fantômes qui l'accompagnent depuis des mois et qui attendent sagement qu'elle les révèle à la lumière, dans la transparence des lieux où ils ont vécu. Sandrine découvre dans un journal local l'existence, à deux pas de chez elle, de la famille Lévy, au moment où ce journal rend hommage à son père, Jean Veille, décédé le mercredi 20 janvier 2021. Ce sont des homonymes partiels, qui ressemblent à ses grands-parents. Ils ont vécu la même trajectoire, la fuite pendant la Seconde Guerre mondiale, la perte de leur appartement, de leurs biens mobiliers et immobiliers, de leur statut, de tout ce qui constitue un être humain, sa place dans la société. Ils en ont été dépossédés par les lois de Vichy. Rien ne leur appartenait plus, pas même leur vie. Ils ont habité aux 6 grandes rues, à la Flèche, au premier étage, au-dessus de leur magasin, et même en pleine ville, ils ne seraient plus protégés, et on les traquerait comme des rats. Les Lévy, Veille, Kahn s'étaient cachés. Comment avaient-ils survécu, sans pouvoir travailler, sans existence civique? Étaient-ils revenus à la Flèche? Avaient-ils récupéré leurs biens sans devoir intenter un procès? Ils ne sont plus là aujourd'hui. Il n'y a plus de traces de leur présence. Il ne reste que 2 immeubles cossus. Il n'y a pas de mémorial pour eux, puisque toute la famille s'était cachée et avait survécu et puis avait quitté les lieux sans laisser de traces. Autre extrait. Ils n'arrivent pas à y croire, même quand ils perdent tout. Sandrine Veille sait que ce n'est pas crédible. Elle se souvient qu'à Drancy, sa grand-mère croyait que les initiales bébé, qui se murmuraient avant son départ pour Bergen-Belsen, étaient celles d'une ville d'eau, comme Baden-Baden. Elle pourrait soigner les poumons de sa fille, Josette Veille. La réalité n'est plus crédible. Ils se racontent des histoires. Ce qu'ils vivent est un cauchemar. Ils vont se réveiller et retrouver la douceur de vivre. Ils attendent et se réfugient à quelques centaines de mètres de chez eux, au Petit Versailles. Au Petit Versailles, Sandrine se raconte qu'ils sont hébergés chez des tailleurs qui travaillaient pour eux. Alors oui, peut-être qu'un réseau de résistance leur fabrique de faux papiers et qu'ils fuient en zone libre, sauvés par des fléchois. Il y a une autre version possible. Ils ont tout perdu et ils n'ont plus d'argent. Ils sont seuls. Personne ne salue plus Louis, Jeanne, Louise et Suzanne dans la rue. Les enfants ne sont plus scolarisés. Ils sont traités comme de la vermine. Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits, écrit Robert Brasillach dans Je suis partout, le 25 septembre 1942. Leur bonne et sainte ville est devenue un enfer. Ils sont traqués comme du gibier. Dans leur grande rue, leur royaume, d'autres personnes les ont remplacés. C'est comme s'ils n'avaient jamais été là. S'ils ne partent pas, ils vont disparaître dans les camps et dans les trains. Depuis maintenant 4 ans, aucun déporté n'a plus donné signe de vie. S'ils partent, ils ne feront que survivre. Ils deviendront des rats. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, leurs mémoires vont se perdre et s'anéantir. Il ne faudra plus raconter et faire des histoires. En écrivant mon récit, j'ai découvert l'existence d'une autre famille Veille avec 2 L. Je vais vous lire maintenant la dernière lettre de Simone Veille, avec 2 L. qu'elle a écrite à Drancy, à sa sœur. Le mercredi 15 décembre 1943, juste avant de partir pour Auschwitz. Ma chère Denise, quand tu recevras cette lettre, je pense que nous roulerons dans la direction que tu devines. Nous allons sans doute rejoindre papa et maman. Je souhaite que nous soyons dans le même camp. On part vendredi matin. C'est le voyage qui m'ennuie le plus, pour la petite, par le froid maintenant. Je pense que ce ne sera pas trop long. Quand papa et maman sont partis, le samedi matin, ils devaient arriver le lundi matin. Ils doivent être dans un nouveau camp près de Dresde. On part avec courage, car ce n'est plus pour longtemps, et avec un groupe épatant, 40 travailleurs du camp, presque tous des Vosgiens ou gens de l'Est. Dans le convoi de nos parents, 58 travailleurs étaient déjà partis. Sans doute veut-on renouveler les cadres. Enfin, on espère bien se revoir bientôt. Nous reviendrons prochainement, je suis persuadée. En attendant, prends bien garde à toi, ne fais aucune imprudence. Je ne tiens pas à ce que tu nous rejoignes, malgré tout le plaisir que nous aurions à te voir. J'espérais avoir de tes nouvelles par Pontoise, mais rien. Sans doute y en aura-t-il jeudi prochain, après notre départ malheureusement. Tu tiendras au courant le reste de la famille, que ceux du Midi prennent bien garde à eux. Leur ancien ami, le colonel, est toujours là. As-tu de nos nouvelles par Edgar ? Je le pense rentrer chez lui à Monte-Carlo. Je viens d'écrire un mot à Madame Papillon pour qu'elle ne m'envoie pas ma pelisse. Je regrette de ne pas l'avoir pour partir. Enfin, tant pis. Je pense que tu as toujours beaucoup de travail. Cela te distraira et te changera les idées. Reste toujours en relation avec Madame Papillon, les Lecointre, Rioux, etc. Ce qui pourra nous être un centre de ralliement au retour. Que cela est toujours ton adresse, si tu étais appelé à changer de lieu de résidence. Reste aussi en communication avec Madame Suzanne. Tu pourras la prévenir aussi de notre départ. Là-dessus, à la grâce de Dieu et à bientôt. Je t'embrasse bien, bien affectueusement pour nous tous. Ta vieille Simone. Et voilà ce qu'écrit Denise Baumann, celle qui a rassemblé ses lettres dans l'ouvrage « Une famille comme les autres », lettres réunies et présentées par Denise Baumann, publié chez Albin Michel. Voilà ce qu'elle écrit à la fin de cet ouvrage. Septembre 1939. La guerre, les hommes partent. Comme les filles de mon âge, je participe aux permanences de gare, préparant biberons et café pour les trains d'évacués d'Alsace, distribuant vin chaud et nourriture aux convois militaires, etc. J'appris à conduire pour devenir ambulancière. Toute l'imagerie de la Grande Guerre me guidait. Mais ce n'était que la drôle de guerre, et nous ne le savions pas. J'entrai à l'université la plus proche, puisque tout allait s'arranger. Et cela s'arrangea, comme on le sait, par la défaite et l'occupation. Réfugiée à mon tour, dans le Midi européen, je retrouvais sans malice cette discrimination raciale, qui, m'écorchant vive, me rejetait dans le clan des autres. Dans le jardin où je conduisais tous les après-midi, le petit garçon qui m'était confié, je me liais rapidement avec les nurses et bonnes d'enfants. Un jour, la question juive fut abordée. Ces jeunes paysannes béarnaises ne savaient pas ce qu'était un juif, comment on le reconnaissait. Une nurse, employée d'une famille fortunée repliée de Paris, expliqua que son petit était circoncis. Et voilà toutes ces filles déculottant leurs marmots et s'exclamant sur les différences. Ces petites verges innocentes symboliquement marquées du lien de Dieu. Quelle ironie! Je pâlis d'une rage froide, mais ne dis rien. Mon petit à moi en était un aussi. En 1942, je donnais des leçons d'anglais à une charmante élève. Le salaire m'était précieux, souvent complété d'un œuf frais. Les Allemands entraient dans la ville le 12 novembre. La mère de mon élève m'écrivit une lettre embarrassée, me disant qu'elle avait deviné mon origine et ne pouvait plus, sans danger, me laisser en contact avec sa fille. Je fus triste doublement, mes ressources s'amenuisaient et j'aimais bien la petite fille. Plus tard, monitrice dans une maison d'enfants de Lauser, enfant de parents déportés, passant par cette halte avant de s'évanouir dans les réseaux de planquage, je me trouvais avec des juifs français étrangers dont beaucoup naturalisés attendaient avec angoisse la possible dénationalisation. Polonais, tchèques, russes, français d'Alsace ou de Provence, auxquels s'étaient joints, au hasard, des amitiés nées dans l'armée, des Espagnols républicains. Tous, nous n'avions qu'un but, sauver les enfants. Pour la première fois, j'entendais parler yiddish et découvrais une culture ignorée. La direction n'imposait aucune pratique religieuse. La célébration des grandes fêtes traditionnelles prenait un sens humain, large, fraternel. Je compris alors l'inanité de lutter contre mon appartenance. Je n'étais plus israélite mais juive et acceptais ma singularité. On m'avait étiquetée et avec quelle sauvagerie. Ma juiverie faisait partie de moi-même comme ma culture française. Elle me donnait des racines profondes et une force supplémentaire. Désormais, je ne laisserai passer ni un geste ni une parole raciste, quelle qu'en soit la victime. Car tout avait commencé par des mots, des inscriptions soi-disant anodines, pour finir dans les chambres à gaz. Pas de pitié pour moi, mais pas plus pour les autres, ceux qui sciemment ou par bêtise sèment le germe, mortel. Denise Baumann s'est engagée dans la lutte contre l'antiracisme. Elle dit aussi qu'elle est hantée par le souvenir de ses parents et de sa sœur. Je vais terminer par le témoignage de Stanislaw Tomkevitch, qui a beaucoup, beaucoup fait pour les droits des enfants et qui n'est toujours pas, à mon avis, assez reconnu et assez étudié. Je vais vous lire des extraits du premier chapitre qui s'intitule « Pourquoi je suis devenue psychiatre ?» À l'époque où je dirigeais un service pour enfants à Rieré Profond, le rebut de l'humanité, comme disaient encore certains, un étudiant en médecine est venu me trouver pour me demander une place d'interne. Je lui ai fait visiter les lieux, considérés comme un modèle en ce temps. Il a vu tous ses enfants cassés et sur le chemin du retour, il m'a dit « Tu sais, Tom, franchement, pas une seconde je n'imagine être psychiatre dans un endroit pareil. » Il a hésité, puis il a posé la question. « Pourquoi quelqu'un comme toi travaille-t-il avec ces enfants-là ?» Je l'ai envoyé promener très méchamment. Cette question, comme mille autres, était en ce temps-là interdite. Nul n'avait le droit d'entrer dans cette zone noire et douloureuse de mon passé. À peine aurais-je pu d'ailleurs formuler la réponse pour moi-même. Si quelqu'un, en revanche, avait eu l'idée de me demander pourquoi je travaille avec les adolescents, j'aurais pu répondre de meilleur cœur et plus simplement « c'est parce que je les aime ». Mais là non plus, il n'était pas question de dire aux autres, ni à moi-même, une vérité que j'ai mis des années à oser regarder en face. Je travaille avec les adolescents parce qu'on m'a volé ma propre adolescence. L'expression peut paraître abusive. On a toujours une adolescence, bien sûr. Disons que la mienne, entre les murs rouges du ghetto de Varsovie et les barbelés de Bergen-Belsen, n'a pas été tout à fait normale. Dès que j'ai senti la fin de mon enfance, les bombardements ont commencé au-dessus de ma ville. Dès que je voulais embrasser une fille, les nazis entraient dans la rue. Et il fallait s'enfuir. Mais le vol allait plus loin. Je ne l'ai compris que beaucoup plus tard. Dans une adolescente dite normale, les jeunes gens se révoltent contre leurs parents. Ils digèrent ensuite leur révolte pour s'autonomiser et devenir de grands garçons ou de grandes filles. Or moi, on m'a volé même cette crise d'adolescence. Parce que le jour où j'ai commencé ma révolte, mes parents ont été assassinés. Et je suis restée là, avec ma culpabilité sur le dos, et pendant 30 ans, des rêves horribles, où mon père bien-aimé revenait régulièrement me tuer. Si j'ai voulu m'occuper d'adolescence, ce n'était pas pour voir comment se passait une adolescence ordinaire. C'était pour tenter de me guérir, en donnant aux adolescents qui n'arrivaient pas à se dépatouiller de leur crise pubertaire l'aide dont j'aurais eu besoin et que personne ne m'a donnée. Mais voilà un premier mensonge. En fait, quelqu'un m'a aidé. C'est le moment de raconter comment. Cela expliquera pourquoi je suis devenue psychiatre. Je passe sur les tentatives de suicide qui sont elles-mêmes des exemples de non-prise de conscience en vérité de ce qui se passe. pour parler d'autres moments qui montrent vraiment à quel point il est inconscient. Au bout de quelques temps, peut-être à cause de Goethe, on m'a mis dans un poste super pépère, un petit atelier où il fallait visser, dévisser, faire une vingtaine de branchements pour actionner une pompe. C'est là que ma maladresse a frôlé l'héroïsme. Je sabotais tant que je pouvais. Alors, comme punition, on m'a donné des taloches, on m'a fait transporter des briques sans arrêt d'un endroit à l'autre et laver d'énormes latrines, ce qui, pour moi, Stasio Tomkiewicz, élevé dans l'idée que je ne travaillerais jamais manuellement, était une humiliation effroyable. Je ne savais pas à l'époque que dans la démocratique armée française, la corvée de chiottes était de rigueur pour toute recrue intellectuelle. Au bout d'un petit mois de ce régime, j'en avais tellement assez et je me sentais tellement seule sans ma famille que j'ai décidé de m'évader. Ce n'était pas difficile, sauf si on se faisait prendre. Il suffisait d'enlever son brassard de juif et de sortir avec des ouvriers polonais. Cependant, jeune et inexpérimentée, je ne voulais rien perdre de mes affaires. J'avais un beau manteau, un magnifique drap jaune d'or, sauvé de la chambre à coucher de mes parents, la dernière chose qui nous restait de notre vieil appartement. J'ai donc fait un gros baluchon de tout ça et je suis sortie avec. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. À la sortie, les gardiens m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» J'ai reçu une sacrée dérouillée et on m'a mis à creuser les fosses. C'était vraiment dur. On nous battait sérieusement. Alors au bout de 3 jours, je me suis sauvée, sans rien cette fois-ci. Je suis sortie du camp comme une fleur, j'ai pris le tramway et je suis rentrée dans le ghetto. Mais contrairement à mon attente, j'ai été très mal accueillie. Mes parents se sont mis à me traiter d'incapable, m'ont gravement reproché d'avoir perdu mon beau manteau et d'avoir fugué d'un des meilleurs camps de Varsovie. C'est vrai que les conditions étaient infiniment meilleures que tout ce que j'ai connu ensuite. Peut-on dire qu'ils avaient intériorisé les principes nazis ? En fait, les nazis avaient réussi à créer, surtout chez les juifs, un peu âgés comme mes parents, l'illusion qu'aussi longtemps qu'on travaillait, on n'était pas menacé. Je vivais très douloureusement ces reproches, sans me rendre compte que mes parents cherchaient à me protéger de la mort et qu'ils avaient mis tous leurs espoirs dans ce camp pour me garder en vie, jusqu'à la fin de la guerre. Mais je me sentais profondément dévalorisée et l'idée du suicide a commencé à s'imposer. Lecture d'un extrait du 2e chapitre qui s'intitule « Survivre ». En face de l'usine Transavia, où travaillaient mes parents, il y avait un atelier de luxe où l'on fabriquait les ceinturons pour soldats portant l'inscription « Gott mit uns »« Dieu avec nous ». C'est là que je suis allée travailler après ma tentative de suicide. Ma chambre était dans l'usine, à 50 mètres de chez mes parents. Je les voyais donc tous les jours, on se faisait la bise, mais j'avais mon espace à moi, même s'il était humide et plein de gros rats. Dans ce nouveau logement situé au 1er étage, j'ai pu commencer à sauter par la fenêtre, pas pour me tuer, mais plus intelligemment pour m'entraîner afin de ne pas rater mon coup le jour où j'aurais à sauter d'un train en marche. J'avais compris qu'on allait être gazé ou, comme on commençait déjà à le dire dès juillet 1942, transformé en savon. Je le savais parce que je croyais ce qu'on disait. Des nouvelles s'étaient propagées. Elles se confirmaient de plus en plus. Les gens s'étaient divisés en 2 groupes. D'un côté, ceux qui n'y croyaient pas et disaient que c'était de la propagande, que les Allemands ne pourraient jamais faire ça. La force de la négation était aussi puissante chez les Juifs que chez les bons Allemands, avec qui je discutais à l'usine du camp d'Aucuncy. Et d'un autre côté, ceux qui, comme moi, pensaient « Ils veulent notre peau, ils vont tous nous tuer. » Sans cette lucidité, je n'aurais pas survécu. Quand on lit ces récits, on prend conscience que la réalité n'était pas crédible, même quand elle se passait sous les yeux des victimes elles-mêmes. Cela a fonctionné effectivement grâce à la puissance du déni, à la fois des victimes et des bourreaux. Cela explique peut-être pourquoi ce que je vais vous raconter dans les prochains épisodes a été à la fois silencié par les personnes qui ont commis ces crimes et en même temps par les personnes qui les ont vécus. C'était ma rencontre avec le déni des victimes de la Seconde Guerre mondiale.